Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Remettre Noël comme un rassemblement familial et pas être uniquement dans la surconsommation, voilà, l'étalage, le plus.
La magie des Noëls, voilà, s'efface un peu et finalement la réalité arrive et je pense que c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est dire qu'est-ce qu'on en fait.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Marine.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Je souhaiterais parler de la thématique de Noël en famille.
Mmh. Qu'est-ce qui se passe pour vous autour de cette thématique ?
Eh bien, je me rends compte que depuis que je suis mère, mon centre autour de cette thématique a changé. Et en changeant, ça m'a aussi permis de m'interroger sur le fait, en fait, que cette célébration, elle a jamais été neutre pour moi et qu'elle est assez ambivalente. Et donc, j'aurais aimé en parler ensemble.
Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà pour vous, dès votre enfance, autour des fêtes de Noël ?
Alors déjà, moi, je viens d'une famille qui est pratiquante, donc je pense que ça a quand même son importance autour du temps de Noël. Et j'ai aussi une famille qui était géographiquement dispersée, donc Noël était vraiment l'occasion d'une réunion forte et attendue, en tout cas, je pense, de la part des adultes. Et enfin, dernièrement, je viens d'une famille, mais sûrement comme plein de familles, qui a son lot de tensions. Et Noël était à la fois un moment de rassemblement que attendu de tous et un vecteur aussi de ces tensions. Et ça, j'ai mis un peu de temps à m'en apercevoir.
Qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous en êtes aperçu ? Qu'est-ce que vous avez compris de ces tensions ?
Eh bien, je dois dire qu'il y a déjà un peu de magie de Noël qui est tombée à plat, mais pas seulement. Je me suis aperçue finalement, je crois que c'était assez tôt cette réalisation, je devais avoir 10 ou 12 ans. Je me suis aperçue finalement de la grande dualité que pouvaient avoir les adultes où je sentais une excitation très importante autour de ce rassemblement et en même temps un grand stress. Et plusieurs années de suite, j'ai été un peu perdue sur le pourquoi, en fait. Pourquoi on se rassemble si c'est pour être stressé ? Et j'ai souvenir de Noël un peu flottant, comme ça, en tout cas pour moi, autour de ce pourquoi, où on n'arrivait pas trop à me répondre. La réponse, bah c'est comme ça, c'est la tradition, n'était pas une réponse qui m'apportait beaucoup de satisfaction, à vrai dire.
Mmh. Et depuis que vous êtes mère, du coup, comment ça s'organise ?
Eh bien, c'est toujours une logistique assez dense, je dirais, puisque moi aussi, maintenant, j'ai une famille qui est géographiquement dispersée. Je compose, bien sûr, également avec ma belle famille et puis avec les attentes des enfants. Donc, ce que nous faisions jusqu'à présent, c'était le 25, qui est un peu la date sacralisée d'un côté de la famille, et une autre date plus flottante avec l'autre côté de la famille. Mais même ça, ça n'apporte pas. Ça a l'air simple comme ça sur le papier, mais ça apporte pas forcément plus de fluidité. Et alors qu'en termes de logistique, c'est compliqué parce que techniquement, ça veut dire faire 3 heures de route dans un sens, le lendemain presque repartir, pas immédiatement, mais en tout cas 24 heures après, revenir dans l'autre sens, passer son temps à table. Et en fait, depuis que je suis mère, je me suis rendu compte à quel point cette fête pouvait avoir un côté irritant finalement. Et je dois avouer que c'est un constat qui me peine, en fait, irritant dans toute la logistique que ça représente, dans tout l'aspect parfois sacrifice qu'on peut faire pour faire plaisir aux uns et aux autres, et enfin irritant dans l'oubli de la finalité qui est d'être ensemble et peut-être de manger des coquillettes jambon, mais d'être ensemble. Voilà, et ça m'a vraiment sauté aux yeux en devenant mère.
Vous avez l'impression finalement que cette organisation, alors comme certaines familles aussi peuvent le faire, d'une année sur deux, là vous dites voilà le 25 dans votre famille par exemple et une autre date autour de Noël dans votre belle famille, que même ça satisfait pas, que finalement qu'il n'y a pas d'organisation parfaite qui va satisfaire tout le monde.
Oui, absolument. Je pense qu'il n'y a pas d'organisation parfaite. Je pense qu'aussi Noël est vraiment un rassemblement charnière pour plein de familles qui est à la fois réellement attendu dans des familles, réellement célébré dans toute la magie que ça peut avoir, et en même temps un vecteur d'énervement et de stress qui en fait une fête extrêmement ambivalente finalement, chez moi comme chez les autres.
Quelles peuvent être les sources de tension justement quand vous fêtez Noël, que ça soit dans votre belle famille ou dans votre famille d'origine?
Je dois avouer qu'elles sont plutôt multiples et que plus le groupe qui se rassemble est grand, je pense, plus ça peut être vecteur de tension. Ça va du choix du menu auquel il faut surtout pas déroger, parce que en fait ça fait 30 ans qu'on mange ça et que ça serait vraiment dommage d'innover, à l'heure à laquelle on passe à table, s'il faut en attendre d'autres qui viennent pour le coup de leur belle famille mais qui elle est à côté, donc voilà, ils finissent de prendre l'apéro avec les uns et donc arrivent à 14h. Bon, bah c'est vrai qu'il faut se mettre à table 14h le 25, c'est pas forcément très évident. Quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux? Il y a vraiment une myriade de petites choses qui ajoutées à la fatigue et oui, un peu à ce stress de l'orga, je trouve ternit un peu cette étoile de Noël. En tout cas, moi, c'est ce que je constate et que je ne sentais pas trop enfant, pour le coup. Ouais.
Et au-delà du stress, voilà, de la pression autour de l'organisation, est-ce qu'il y a des choses pour vous qui se réactivent au moment où est-ce que vous avez des attentes particulières, vous, à ce moment-là?
Oui, moi j'ai toujours des attentes un peu de temps de qualité avec les uns et les autres qui sont en fait un peu un vœu pieux parce que on est nombreux, on court partout et encore une fois Noël, si on se conforme stricto sensu aux dates, finalement c'est 48 heures. Donc ça c'est des choses qui se réactivent et qui sont souvent de l'ordre un peu de la déception. C'est amusant parce que j'ai pas trop de sujets autour des cadeaux. Moi, j'adore faire des cadeaux, mais c'est pas grave si on m'en fait pas beaucoup. Par contre, il y a quelque chose qui se joue sur mes enfants, où en fait, si moi je fais des cadeaux à d'autres enfants de la famille, je trouve ça chouette que mes filles aient un espèce de retour d'ascenseur. Voilà, autour
donc,
de ça.
Donc, il peut y avoir un enjeu d'être peut-être déçu que vos filles ne reçoivent pas de cadeaux de certaines personnes.
Oui, ça a pu m'arriver, notamment quand elles étaient vraiment toutes petites. Il y a quand même une symbolique, je pense, du premier Noël, quand votre enfant a un an ou pas encore un an. Je trouve qu'il se passe quand même vraiment quelque chose en tant que parent et aussi en tant que famille au sens large, où voilà, le premier Noël d'un nouveau membre de la famille, en tout cas moi dans ma famille, il y a ça a valeur de symbole en fait. On marque un peu ça.
Quand vous dites dans votre famille, vous dites c'est avec votre conjoint et vos filles ou c'est dans votre famille d'origine ?
C'est plutôt dans ma famille d'origine, puisque jusqu'à présent, il ne m'est jamais arrivé de faire Noël. Donc moi, j'ai deux petites filles. Il ne m'est jamais arrivé de faire Noël à quatre, avec uniquement ma famille nucléaire. J'ai toujours fait Noël, soit donc avec ma famille et ou avec la famille de mon conjoint. Noël à quatre, ça m'est jamais arrivé.
Mmh. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez ?
Oui, clairement, ne serait-ce que pour, ne serait-ce que pour tester autre chose, ne serait-ce que pour... Voilà, pour le faire aussi un peu comme on le souhaite, mais pour l'instant, ça n'a pas encore été réalisé. Moi, j'ai toujours trouvé ça, finalement, avec pas mal de panache, les gens qui disent, bah nous, pour Noël, on part faire un voyage juste tous les quatre, et peut-être on sera dans l'avion à Noël, et en fait, ça se trouve, ça sera quand même super, on boira une coupe de champagne avec les hôtesses de l'air. C'est un côté un peu anticonformiste que je trouve chouette, mais bon, ça veut dire... que les enfants, il faut remplacer un Noël plus conventionnel par ça. Donc voilà, il y a d'autres, c'est d'autres arbitrages à faire.
Vos filles, elles ont quel âge aujourd'hui ?
Elles ont 4 et 7 ans.
Elles sont dans l'attente de ce Noël conventionnel ?
Elles sont dans l'attente de la réunion familiale, plus que du Noël conventionnel, même si elles crachent pas sur l'ouverture des cadeaux, etc. Mais elles sont dans l'attente de l'excitation liée à la fête de famille. Ça pourrait être celle-là ou une autre.
Et vous auriez l'impression, finalement, quand on reprend votre exemple, si vous étiez dans un avion pour Noël, que vous les priveriez de ce moment de réunion familiale et peut-être d'ouverture de cadeaux ?
Je sais pas. Je pense pas que je les priverais parce que ça serait remplacé par autre chose. Par contre... je pense que la pression familiale autour de ça serait bien entendu très forte et probablement vécue comme une fuite en fait. Et pour l'instant, même si j'ai pu passer des Noëls, comme je le disais, qui étaient un peu des poils à gratter, qui étaient un peu irritants, j'en suis pas encore à cette étape-là. Mais c'est pas non plus une option que j'exclus complètement de faire un Noël à quatre, un peu loin de tous, voilà.
Oui, en tout cas, on entend qu'il pourrait y avoir peut-être du renoncement quand même dans ce Noël, même s'il peut y avoir des choses nouvelles qui apparaissent. Vous dites, Marine, qu'il y a une répétition dans ces Noëls pour la gratter, voilà, des tensions de cette organisation qui est lourde, source de stress, de pression, etc. Est-ce que vous avez essayé de changer certaines choses pour alléger ou d'organiser quand même les choses différemment ou mettre des choses en place ?
Oui, je dois dire que j'ai l'impression qu'on essaye une formule améliorée chaque année, donc qui à chaque fois présente des avantages, des inconvénients. Ça va de chacun amène un plat pour alléger finalement les personnes qui reçoivent et qu'on puisse vraiment plus profiter du moment. Ça va de... franchement, on simplifie, venez, on se fait un gros apéro dînatoire et puis juste une bûche parce que de toute façon après on a plus faim. Nous également, on a proposé de recevoir chez nous pour alléger voilà nos parents ou nos beaux-parents et en fait c'est d'eux que viennent la plus grande résistance où vraiment il y a un côté Noël doit se faire un peu chez les aînés de la famille. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. En tout cas, moi, dans ce que je vois, qui me semble, enfin, qui m'interroge. Et en même temps, je sais pas, peut-être que dans 40 ans, j'aurai ce positionnement-là. Mais le choix du lieu où on fête Noël est vraiment quelque chose de l'ordre du symbole. Et si on change, j'ai l'impression qu'il y a un retrait qui s'opère chez ces personnes-là. Je vous donne un exemple. L'année dernière, Ma jeune sœur était très enceinte, elle a accouché le 19 janvier et en fait elle a proposé que ça soit chez elle puisque elle avait ils vivent en montagne, donc s'il y avait eu de la neige etc, il aurait fallu se mettre en route pour la maternité, ça aurait été un petit peu compliqué et c'était factuel en fait. Enfin voilà, quelqu'un de très enceinte.
Vous voulez
enceinte.
Dire vos parents vivent en montagne.
Et ma sœur aussi.
Votre sœur aussi.
Ouais, voilà, pas très loin. Et c'était très factuel, ça demande. Et en fait, on a fini par faire comme elle demandait, mais ça, il y a eu de la résistance. Il y a eu de la résistance sur le fait que c'est dans un autre lieu. Alors, c'est pas dit comme ça, c'est oui, mais c'est plus petit chez toi, mais comment on va s'organiser pour dormir, Et voilà. Et ça, c'est un exemple et j'en ai d'autres et c'est, et alors que c'est factuel.
Est-ce que le fait que ça soit chez votre sœur l'année dernière, est-ce que ça a modifié des choses finalement au niveau des relations, de comment les fêtes se sont déroulées après avoir dépassé finalement les résistances?
Oui, sûrement. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un Noël différent, qui était pas forcément sur le même format que les autres. Et du coup, bah, c'était plus aussi avec un peu les règles de ma sœur et de son mari. Et donc, ouais, c'était différent. Et donc, moi, en tout cas, moi, à titre perso, j'aime bien cette idée que c'est pas forcément tout le monde, tout le temps chez la même personne, etc. Et en même temps, en tant que membre d'une famille qui est quand même assez nombreuse, etc., je reconnais l'importance du rituel, je reconnais l'importance de ça pour moi, pour mes enfants. Donc, je trouve qu'il y a cette espèce d'équilibre qui est à trouver, mais il y a quand même un côté très ritualisé autour de Noël. Donc voilà, je reconnais quand même cette importance-là. Mais je pense qu'on peut faire des fois un peu évoluer le rituel.
Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans ce rituel?
Alors, de façon très très personnelle, je déteste le chapon. Et donc ceci est un message à ma famille, s'ils me reconnaissent. J'en ai marre de manger du chapon à Noël. On a quand même, pour être vraiment honnête et redonner à César ce qu'est à César, on a quand même fait évoluer beaucoup de choses, notamment le nombre de cadeaux par enfant, où c'était devenu n'importe quoi, c'est la vraie gabegie, l'acceptation aussi de cadeaux de seconde main, en fait. On a quand même essayé, je dirais, ces 3-4 dernières années, de remettre beaucoup plus de sens autour de Noël et d'éviter de faire un moment de surconsommation. C'est bête, mais même chez moi, il n'y a plus de papier cadeau, c'est des tissus, on les emballe, on réutilise ça d'une année sur l'autre. Voilà, il y a quand même une volonté de remettre Noël comme avant tout un rassemblement familial, également religieux, même si on va plus trop à la messe ces dernières années, mais pas être uniquement dans la surconsommation, voilà, l'étalage, le plus, qui en fait, au sens propre comme au figuré, donne un peu la nausée, quoi. C'est au niveau de la nourriture qu'au niveau des cadeaux.
Merci beaucoup, Marine. Je vous propose maintenant qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte, Sandra Viss. Bonjour Sandra Viss.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice, autrice et également thérapeute familiale. Vous travaillez dans un CMP à Montargis où vous accompagnez des familles sur 3 générations, ainsi que des adolescents en tant qu'art-thérapeute. Vous travaillez également en libéral à Paris, vous recevez des familles, des couples et en individuel. Les fêtes de fin d'année sont pour beaucoup l'occasion de se retrouver en famille, comme vient de nous en témoigner Marine. Ces retrouvailles entre joie et appréhension ne sont pas toujours si simples à gérer. Ces moments émotionnellement forts suscitent parfois contentieux et compétitions qui remontent à la surface. Comment gérer au mieux ces moments? Comment s'y préparer? Quelle organisation mettre en place pour que ça se passe bien, tant pour les adultes que pour les enfants? Autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui ensemble avec vous, Sandra.
Vaste sujet, les fêtes en famille. Hein.
Tout à fait.
Que ça soit Noël ou que ça soit toute autre fête, les anniversaires, voilà, toutes les célébrations qui se font en famille, c'est-à-dire à mettre au moins 2, voire 3, voire 4 générations ensemble autour d'une table.
Ouais. En tout cas, il y a un vrai paradoxe aux fêtes de Noël, de fin d'année, c'est qu'à la fois c'est très central, dans les familles. C'est quelque chose qui est très attendu. Et puis, des semaines en amont, tout le monde un peu râle. Oh ben, on va chez la tante Trucmuche, on n'a pas envie. De manger du chapon, à nouveau, on n'a pas envie. Donc, tout le monde grince un peu des dents. C'est quand même rare les familles où c'est relax, cette question de l'organisation des fêtes.
C'est exactement ça. En fait, en écoutant Marine, c'était très intéressant parce que j'entendais, je garde une phrase qu'elle a dit quand j'avais 10-12 ans, c'est-à-dire début de l'adolescence. Elle s'est posé la question, pourquoi on se rassemble si il y a autant de stress? On n'est pas rentré à demander qu'est-ce que c'est le stress pour un enfant de 10-12 ans, mais ça veut dire que un jeune adolescent déjà ressent beaucoup de choses qui se passent autour de ces adultes qui se forcent quelque part à être ensemble. Et puis, en même temps, quand vous dites très justement, Mathilde, avant Noël, voire un mois avant Noël, quand les amis sont ensemble, ou même avec les frères et sœurs ou autres, on va commencer à parler de Noël. C'est-à-dire qu'on a l'impression que personne veut y aller, ou peut-être c'est une façon aussi de relativiser, de partager ensemble que c'est un moment difficile pour les uns, mais que c'est un moment aussi important. Je pense que ce qui est important, ce que disait Marine, c'est donner du sens. Et plus tard, Marine, maman, elle essaye de donner du sens à tout ça pour ses filles. Donc, je pense que c'est petit à petit évoluer, comme elle disait très justement.
Alors, Marine nous en a donné quelques exemples de justement l'origine de ces tensions. Alors, elle nous a parlé du stress lié à l'organisation. Comment vous expliquez ça, Sandra?
En fait, Marine a expliqué voilà, c'est plutôt des anecdotes autour de papier cadeau, qu'est-ce qu'on va manger, s'est retrouvé, où ça va être. Mais c'est vrai que si on essaye de creuser un peu, c'est dire qu'est-ce qui se joue derrière tout ça. En fait, vraiment, si là c'est le côté réalisatrice, vous dire tout comment ça peut inspirer un réalisateur, les fêtes des familles, tout ce qui se passe quand on met trois générations autour d'une table, chacun avec son vécu, son histoire, ses joies et ses souffrances aussi. J'ai perdu la question, évidemment.
Je vous interrogeais, Sandra, sur l'origine de ces tensions.
Voilà.
Qu'il y a l'organisation, mais derrière cette organisation, il y a d'autres choses qui se jouent. Quelles sont ces choses qui se jouent?
Donc, derrière, ces petits détails sur lesquels on va fixer, évidemment, derrière, il y a, par exemple, entre la fratrie qui se retrouve et qu'il va y avoir les rivalités qu'ils ont vécues, même enfants. Face aux parents, c'est-à-dire que quand on va en réunion des familles, on retourne à l'enfant qu'on était aussi. Sauf qu'à ces moments-là, on y va avec nos enfants et avec notre conjoint, notre copine. Donc du coup, c'est quel rôle on va jouer et quelle place on a dans la famille. Il peut y avoir aussi des conflits, c'est-à-dire que des fois dans les fratries ou mère-fille, il y a des conflits, mais dans ces moments de réunion des familles, il faut essayer d'éviter d'en parler. Sauf que des fois, il va se passer quelque chose, ou même l'enfant va dire quelque chose, que ça va réveiller cette souffrance qui est installée, et du coup, ça va exploser.
Donc là, ce que vous nous dites, Sandra, c'est que ça peut réactiver finalement des tensions qui sont déjà préalables, qui sont déjà présentes dans les relations, mais on se dit bon ben je vais me tenir à carreau, je vais contenir ça pour que ça se passe bien, mais je contiens tellement finalement que ça finit par exploser.
Exactement. Donc ça peut être entre la fratrie, mais ça peut être aussi mère-fille avec les grands-parents aussi. Il faut se dire qu'aujourd'hui, rien que si on visualise trois générations, voire quatre, des fois autour d'une table avec avec le changement qu'on a eu ces dernières décennies autour d'Internet, autour même de mouvement MeToo, même au niveau de l'éducation, c'est-à-dire comment l'éducation a changé en quelques décennies. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt l'éducation positive, on va laisser la place aux enfants, aux adolescents, de parler. Comment vivre ça avec les autres générations qui peuvent être les grands-parents ou les arrière-grands-parents des fois, où eux, ils ont été dans une forme d'éducation plus sévère. C'est-à-dire comment laisser son enfant vivre naturellement l'éducation qu'on veut lui donner, tout en respectant est-ce que nos parents ils ont fait, et pas le prendre du style « regarde ton fils, me coupe la parole ». Quand nous, on essaye d'écouter son enfant et lui donner la place.
En tout cas, là, Sandra, vous évoquez toutes les questions autour, en effet, de l'éducation, tout ce qui peut venir se jouer, comment les grands-parents regardent les parents, donc leurs enfants, éduquer leurs petits-enfants. Et là, des parents qui peuvent se sentir jugés, critiqués. Donc, ça peut être, en effet, très vite assez désagréable.
Exactement, et même deux fois, on va dire que ça peut se jouer dans ces sens-là. C'est-à-dire qu'un parent, en étant avec ses parents et en même temps avec ses enfants, il peut aussi inconsciemment ou après trois verres du vin aussi. Il faut pas le cacher. On sait tous que l'alcool va désinhiber, voilà, et très facilement la parole peut voilà, les gens ils vont commencer à parler des sujets que peut-être c'était pas prévu d'en parler. Même ils s'étaient dit avant d'y aller, je vais pas parler de ça. Mais après trois verres du vin, on va commencer à parler de quelque chose et on va profiter peut-être de ces moments quelque part pour montrer à nos parents qu'on a eu une souffrance en étant enfant et que nous on est en train de la réparer. C'est un peu ce qui va se passer, mais évidemment c'est de façon inconsciente ou de fois consciente, mais ça peut être un moment de tension et ça peut faire exploser très rapidement ce repas qui doit être plein de magie autour de Noël.
En tout cas, là, quand vous dites ça, Sandra, ça m'évoque une patiente l'autre jour qui me disait « Moi, mes parents, ils attendent que mes enfants se tiennent bien à table, respectent un certain nombre de règles, bougent pas, voilà, donc quelque chose d'assez traditionnel, alors que elle, ses enfants qui se lèvent, qui parlent, qui participent, c'est plutôt quelque chose qu'elle souhaite. » Donc là, on voit bien comment les générations peuvent avoir des difficultés finalement à trouver des règles communes ou en tout cas là entourer les enfants autour de ces fêtes de manière j'allais dire cohérente, en tout cas avec un fil rouge commun.
C'est-à-dire que c'est exactement ça, c'est que chacun trouve plus qu'un rôle sa place. C'est-à-dire que on parle souvent aussi de cycle de vie. Il y a le cycle de vie de l'individu individuel, le cycle de vie du couple, mais le cycle de vie de famille aussi. C'est pour revenir à ce que Marine a raconté, c'est ça. Elle a parlé de son Noël enfant, adolescent, et puis aujourd'hui, c'est son cycle de vie. Elle part de son Noël tant que maman. Et petit à petit, ça va être le cycle de vie de ses enfants qui vont aussi grandir. Alors, il y a des familles où tout est figé. Alors c'est très difficile, là très vite ils vont aller dans un clash parce que ne pas accepter le mouvement de la vie, ne pas accepter que ces enfants deviennent parents et que du coup ils ont un nouveau rôle à jouer dans la famille, mais aussi dans la famille, dans tous ces systèmes, notamment dans les repas de famille, c'est ne pas accepter que les petits-enfants vont grandir aussi. Du coup, tout le monde va être infantilisé quand ils vont se retrouver finalement autour, peut-être plus de la représentation de ce qui est le patriarche. C'est vrai qu'autour de ça, forcément, il y a le rôle de la femme aussi, comment elle a changé en quelques décennies, pas chez tout le monde, mais surtout c'est quand on retourne chez nos parents, qu'est-ce qu'on fait ? On est la femme qu'on est devenue, on est la femme que mon père souhaite que je sois, je suis, on peut rentrer aussi dans un conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents, mais notamment aussi vis-à-vis de son compagnon, compagne ou ses enfants.
En tout cas, Marine nous parlait de son Noël de l'année dernière où les choses se sont un peu inversées, où finalement sa sœur, en accueillant toute la famille chez elle, est sortie un peu de cette position d'enfant. Et donc, ça semble avoir un peu chahuté vos parents qui ont du mal à sortir finalement de leur position un peu de patriarche.
Je ne sais pas s'ils ont pleinement du mal, mais en tout cas, c'est sûr que ça n'a pas été neutre pour eux. Et pour autant, maintenant ils disent que c'était un super Noël, ce qui était le cas, que c'était très chouette, etc. Mais il a vraiment fallu les y pousser, quoi. Ça c'est sûr. Et je trouve intéressant ce qui est dit sur le rôle de la femme, si je peux me permettre, c'est que C'est une fête familiale, mais avec derrière quand même beaucoup de logistique et pas mal de cuisine. Et effectivement, je crois que c'est aussi un truc qui rapidement m'a un peu agacée quand j'étais plus jeune, c'est que en fait, en tant que fille, on nous demandait de mettre énormément la main à la pâte, alors que moi, encore une fois, le chapon, j'adore pas, le foie gras, c'est pas trop mon truc, mais il fallait faire 24 heures avant, énormément de préparation en cuisine. Voilà, je trouve que, enfin, il y avait aussi ce sujet autour de la place de la femme en tant qu'hôtesse de réception et tout ce que ça demande en fait, comme tout ce qu'on exige de nous pour ce but de rassemblement qui en fait concerne tout le monde finalement.
Si je peux dire quelque chose, c'est intéressant ce que Marine dit. Je pense à des mouvements comme ça. C'est vrai qu'on devient tous de sorte des passeurs, en fait. C'est un peu comme une place ou un rôle, mais plus c'est une forme de mission qui est donnée des générations en générations et ce qui se construit autour de ce rite qui peut être symbolisé même par qu'est-ce qu'on va manger. Mais dans des cas comme ça, ce qui s'est passé pour Marie l'année dernière, je pense que c'est important à ces moments-là de féliciter aussi les grands-parents pour voilà, même s'ils ont dit, même s'ils le pensent ou ils le pensent pas, et en fait s'ils ont partagé après pour dire que c'était un bon Noël, c'est des moments où il faut féliciter le changement parce que tout le monde a peur. En fait, parce que changer les rituels, on peut rentrer à nouveau dans ce conflit de se dire est-ce qu'on est en train de casser des rituels, est-ce que ça va impacter notre famille, parce qu'il faut se dire que de façon, si on réfléchit en termes de famille et de système, tout a un impact sur nous. Donc chacun a un impact sur nous, mais aussi ce qu'on est en train de vivre à ces moments-là, ce qu'on disait le cycle des familles, mais on va même symboliser ça par est-ce qu'on va manger. Si on change ces rituels, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc voilà, dès qu'il y a un petit changement, même si c'est le lieu où est-ce qu'on mange, voilà, il faut féliciter toute la famille.
En tout cas, par rapport à ce changement de qui reçoit, chez qui on fête Noël, moi j'entends beaucoup des parents que j'accompagne dire bah, une fois que j'ai invité ma famille, ça m'a donné une autre place dans la famille et sorti justement de cette position d'enfant qui peut être très inconfortable quand on a soi-même des enfants, voilà, de se retrouver dans ces chaussons-là chez ses parents, dans le même rituel depuis tant d'années. Finalement, voilà, il peut y avoir de l'ouverture et que ça puisse être plus confortable pour soi d'inviter ses propres parents et l'ensemble de la famille chez soi, même si ça demande aussi beaucoup de travail.
Mais rien que ne pas être chez soi, c'est déjà faire bouger toute la famille et que chacun puisse sortir un peu de ce rôle qu'on nous a attribué chez nous. Il y a des familles qui vont dire on est parti en voyage, ou on pouvait pas se retrouver ici ou là-bas, et tout était différent. Tout était différent parce qu'ils sont pas revenus à leur territoire, on va dire, dans lequel ils avaient déjà ces rôles.
Il peut y avoir besoin d'un lieu neutre, finalement.
Exactement.
Ça permet un peu plus de mettre tout le monde à égalité.
Et permettre aussi de la créativité, c'est-à-dire innover. Comme disait Marine, innover, c'est prendre des risques. Ça peut marcher, ça peut pas marcher. Quand on répète quelque chose à l'infini, même si c'est pas bon, c'est pas notre faute, entre guillemets, parce que l'idée, elle vient pas de moi. Moi, on m'a dit de le faire, je le fais, je peux dire c'était bon ou pas bon. Et les familles rentrent un peu, voilà, dans ces rituels. Faire autre chose, c'est innover, c'est risquer, c'est sortir de la zone de confort.
Par rapport à cette question des rituels, voilà, Marine l'a bien dit, voilà, ce sont des fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année en règle générale, très ritualisées. À quoi ils servent ces rituels?
C'est aussi donner du sens à la famille, hein. C'est aussi s'ancrer sur quelque chose qui vient des générations précédentes et qu'on s'est dit on partage ce rituel, donc on fait partie de cette famille. Après, c'est vrai que de nos jours, encore une fois, on va dire il y a encore peut-être 100 ans, les gens, on est dans une ville, on y reste toute la vie. Aujourd'hui, de plus en plus, Marine l'a évoqué plusieurs fois, au niveau de la géographie, géolocalisation, comme on dit aujourd'hui, on est tous un peu à droite à gauche, plus facilement. Du coup, ça peut aider aussi à changer ses rituels. La famille, quand elle est ancrée sur des rituels, ça la rassure.
et sortir de ces rituels, ça inquiète. Ça va réveiller aussi des peurs de ne plus faire communauté et famille.
La présence, l'existence de rituels, c'est ce qui permet justement de définir qu'on fait famille.
C'est ça. Mais en même temps, aujourd'hui, voilà, avec tout cette aujourd'hui les
pluralités,
voilà, les enfants vont bouger, donc on voit de plus en plus, voilà, quand on parle des couples mixtes, aujourd'hui on le parle plus presque parce que ça devient une normalité. Les familles changent aussi, donc ça c'est quelque chose qui petit à petit est en train de changer aussi ses rituels et c'est pour ça aussi qu'on est aussi dans une transition, comme beaucoup de choses, qui va passer par ces fêtes de Noël, qui petit à petit vont se transformer dans des nouveaux rituels que chacun va mettre en place. Comme Marine disait, par exemple, les cadeaux, recycler le papier, accepter qu'on peut ne pas avoir un cadeau de chaque personne, mais décider qu'il va y avoir... Chaque personne fera un cadeau. Déjà, c'est sortir de sa zone de confort, mais c'est aussi créer des nouveaux rituels. C'est-à-dire que il faut se dire que nous aussi, on peut créer, innover et créer des nouveaux rituels que nous, on va passer aux futures générations.
Oui, parce que dans le poids de ces rituels, parfois, ils préservent plus les grands-parents que les enfants. Comme s'il y avait finalement... Alors, Noël, c'est une fête... Alors, tourner sur autour de la famille, mais tourner autour des enfants quand même beaucoup. Et en même temps, il y a quelque chose qui semble un peu inversé, où dans toutes ces traditions, on respecte les aînés, on préserve les aînés, mais finalement, est-ce que ça convient aux enfants ?
Voilà, exactement. C'est-à-dire que dans ces rituels, c'est quelque chose qui est en train de changer. C'est-à-dire que déjà la place qu'ils prennent les enfants, les adolescents, c'est pas la même qu'ils avaient il y a quelques dizaines d'années, voire 10 ans. Et ça, c'est une vraie transformation de ces rituels. C'est-à-dire que peut-être les enfants, ils vont avoir vraiment une place plus importante, ils vont prendre plus la parole et ils vont aussi créer leur rituel. Peut-être que partager, faire dessiner tout le monde ensemble, ça pourrait être un nouveau rituel. On sait que, par exemple, les enfants, ils sont derrière les écrans. Hein, on entend les parents, mon fils est tout le temps derrière les écrans. Donner du sens et des nouveaux rituels, peut-être, c'est les autoriser à faire des portraits, des photos à chaque Noël. Voilà, ça peut être créer un nouveau rituel propre à sa famille aussi et partager dans son intimité et leur donner aussi une place, en fait.
Oui. Juste, je vais revenir un petit peu en arrière sur cette question des tensions et des sujets tabous. C'est vrai que, voilà, parfois dans ces moments, vous nous disiez, voilà, les fêtes, on a envie que ça se passe bien, donc on se met la pression et puis finalement, ça finit par exploser. Qu'est-ce qui fait que parfois, justement, ces sujets tabous, voilà, ressurgissent. Vous nous parliez aussi, Sandra, voilà, de le fait d'être 3-4 générations, où là aussi, il peut y avoir des frictions. Alors, on a vu sur l'éducation, sur le regard qu'on porte sur l'éducation, mais aussi, j'imagine, sur la politique, sur aujourd'hui, voilà, la place des femmes, ce qui parfois est soulevé aujourd'hui dans les familles. Là, je pense, voilà, au mouvement MeToo et à peut-être beaucoup de familles dont les fêtes ont pu être perturbées parce qu'il y a des choses qui émergent à ce moment-là sur des sujets durs.
C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de tout et tout le monde peut parler de tout. Et ça, c'est aussi récent, c'est-à-dire que même on va écouter les enfants ou les adolescents, et ça peut pas être encore accepté dans toutes les familles, qu'on va essayer de protéger les grands-parents, même des fois de leur propre histoire. Hein. Je vois moi-même, j'accompagne des familles qui sont, on va dire, franco-espagnoles, parce que je suis espagnole aussi. Donc chez nous, ça va être le thème de la guerre civile, par exemple, qui peut être tabou. Donc d'autres traumas collectifs pour d'autres familles. Et par contre, aujourd'hui, les enfants très ouvertement vont parler parce que les parents parle aussi de cette thématique. Alors, on peut avoir le petit enfant qui va venir demander au grand-père, alors, comment c'était la guerre, ou est-ce que ton frère qui est décédé, et là, bah, les parents vont se tourner vers l'enfant et tout le monde va essayer de dire, mais
chut.
Non, tu dis pas, ou tu parles pas de ça, on parle pas de ça. Quand en même temps, l'enfant est en train tout simplement d'essayer de partager des souffrances qu'il voit. Ou par exemple aussi, on peut avoir quelqu'un de la famille, je sais pas, on peut avoir quelqu'un de la famille qui a eu un problème, voilà, une femme qui a perdu un enfant par exemple, quelque chose de grave, et que peut-être au sein de sa famille nucléaire, ils ont décidé d'en parler avec l'enfant, l'enfant l'a vécu. Par contre, avec les grands-parents, bah, il faut pas en parler. Alors si l'enfant, à un moment donné, la mère, elle est triste et elle a les larmes aux yeux ou elle est un peu émue, l'enfant va regarder sa mère et va lui demander « Maman, qu'est-ce que tu as ?» Et là, toute la famille va dire « Mais non, mais elle a rien, tu vois bien. » Donc l'enfant, il va se retrouver à se dire « Comment ça ? Mais oui, elle a des larmes aux yeux. Mais non, elle a rien. » Donc pour protéger peut-être les grands-parents, cet enfant va se sentir pas compris dans un moment où il a besoin d'être entouré. Et ce sont des moments où aujourd'hui ça c'est en train de changer. C'est-à-dire que avant, très rapidement, on allait dire à un enfant de pas parler, un enfant qui faisait du bruit à table, on pouvait même le punir, le faire partir dans sa chambre. Aujourd'hui, on va essayer de lui donner une place, le comprendre. Mmh. Donc, c'est là où il peut y avoir un peu des tensions.
Oui, là, dans ce que vous dites, les parents de cet enfant peuvent eux-mêmes être dans un mouvement de libérer la parole, d'être plus connectés à leurs émotions et de pas se taire pour une fois, alors que leurs propres parents leur ont toujours demandé, alors de manière insidieuse, hein, bien souvent, mais de se taire ou de pas parler de la tristesse ou de pas parler de ce qui est difficile. Là, ils en ont marre, donc ils vont dire les choses. Et donc là, ça va être un peu explosif.
Exactement. Et ça va être des sujets qui nous touchent à chacun de nous, c'est-à-dire parler l'adolescent homosexuel, qu'il faut surtout pas parler devant les grands-parents. Donc on peut blesser et vexer cet adolescent parce que du coup il va pas se sentir compris. Donc après c'est normal que cet adolescent n'ait pas envie d'aller voir sa famille ou aller dans ses fêtes des familles. Quand finalement peut-être c'est pas qu'il ne veut pas aller voir la famille, c'est que pour lui, y aller, c'est devoir effacer une partie de lui parce qu'elle n'est pas parlée, elle n'est pas partagée. C'est pour ça que ça peut être important de parler et communiquer dans sa famille nucléaire, hein, le sous-système de ce système, de la famille d'origine, pour déjà nourrir cette communication, parler de tous ces sujets, à dire bon, on va aller chez les grands-parents, est-ce que tu vas aller, pourquoi tu veux pas y aller, qu'est-ce qui se passe, j'aime pas y aller parce que grand-père fait des blagues qui me font pas rire, je trouve ça raciste, ou je trouve ça méprisant pour la femme. C'est bien d'en parler pour le donner du sens et nourrir la complicité nécessaire quand après on va se retrouver avec d'autres générations qui peut-être ne peuvent pas comprendre ce que nous sommes en train de faire, mais quand il va y avoir une blague ou quelque chose de méprisant pour la femme, la complicité entre nous va nous aider à transformer, à surmonter ce moment qui peut être difficile pour nous ou pour notre adolescent, même l'enfant.
En tout cas, quand vous évoquez tout ça, Sandra, je me dis le conflit de loyauté dans lequel ça met, où à la fois en tant que parent, on peut avoir envie de protéger ses propres parents, les grands-parents, mais aussi de protéger ses enfants. Et donc là, en tout cas, vous nous donnez une bonne piste pour, en tout cas, le fait de nourrir la complicité avec ses enfants pour justement dépasser et traverser ce qui va être désagréable, peut-être au contact des grands-parents. Ce qui se joue aussi beaucoup autour de Noël, Marine nous parlait de la question des cadeaux. Alors, il peut y avoir beaucoup d'attentes autour de cette question-là, du fait soi-même de recevoir des cadeaux ou ses enfants. Il y a ceux qui vont être généreux, ceux qui vont être radins. Donc, il peut y avoir aussi tous ces comptes qui vont se régler à travers les cadeaux. Voilà. Qu'est-ce que vous observez, Sandra, autour de ces questions-là ?
C'est intéressant parce que des fois, pareil, les cadeaux, ça va être le symbole, hein, et ça peut montrer des fois la générosité, mais ça peut montrer aussi qu'est-ce qu'on essaye de réparer aussi peut-être chez nous ou à qui on essaye de faire plaisir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut créer cette rivalité, même inconsciemment entre les petits enfants, parce que eux-mêmes ils vont sentir que j'ai pas le même cadeau que l'autre ou l'autre même plus parce qu'il m'a fait un plus grand cadeau, quand finalement des fois c'est lié aussi au cycle de vie, ou c'est lié qu'on a vu quelque chose et on a pensé à ça, ou des fois aussi il faut pas oublier que au sein d'une famille pas tout le monde se côtoie autant. Même, je vais dire, s'aime de la même façon, se connaît de la même façon. Des fois, il y a des cadeaux qui sont très maladroits, mais parce que tellement on a peur de ce qu'on va dire qu'on se trompe, on finit par faire mal. Mais aussi, dans une fratrie, c'est autour des cadeaux aussi qu'on va voir que même si on est issu, même si on a les mêmes parents, on n'est pas nous-mêmes les mêmes parents avec nos enfants. On peut avoir dans une fratrie, voilà, un frère qui a décidé qu'il faut pas dépenser dans les cadeaux. On peut avoir un autre frère que pour lui c'est très important de montrer, de faire des grands cadeaux, mais il peut être en train de dire je suis absent tout le temps, mais je vous aime par un grand cadeau. Et ça peut les mettre en danger tous les deux parce qu'ils vont commencer à se critiquer.
Oui, pour certains, les cadeaux vont être un langage de l'amour et pour d'autres, pas du tout. Donc, il peut y avoir cet enjeu affectif pour certains et pas pour d'autres.
C'est ça.
Et quand on n'est pas raccord, ça peut être compliqué.
Exactement. Et ça nous renvoie aussi à qu'est-ce que, quand nous, on était enfants, les cadeaux qu'on a eus
et le cadeau qu'on a... Est-ce qu'il faisait plaisir ou est-ce que à chaque fois, c'était à côté?
Voilà. Le cadeau rêvé qu'on a donné à quelqu'un d'autre que nous, on n'a jamais eu.
Autour des attentes, alors Marine en a parlé, de la pression, de la magie, voilà, il y a une pression sociale aussi très forte, voilà, ce qui est véhiculé autour de Noël, quand on regarde les feuilletons de Noël, il y a toujours quelque chose de très, en effet, magique, idéalisé, et comme si finalement on avait cette attente que ça se passe comme dans ces images-là, rêvées de famille parfaite, ricorée, où tout se passe super bien.
C'est sûrement ça le plus gros problème, c'est-à-dire qu'on idéalise nos familles et surtout on idéalise nos familles quand on devient parent. Des fois, parce qu'on veut essayer de faire d'être des bons parents tout simplement, et du coup on oublie, comme Marine a dit, peut-être on oublie quand j'avais 12 ans, je me posais la question de pourquoi on allait. Après, je suis parent, je dois continuer ces rituels. Et on va y aller et on va dépasser ça et on va faire mieux. Et après un jour, la magie des Noëls, voilà, s'efface un peu et finalement la réalité arrive. Et je pense que c'est là que c'est vraiment intéressant. C'est dire qu'est-ce qu'on en fait. On a vécu ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, on est là. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Et moi, je crois que voilà, avec de la créativité, avec de l'imagination, on peut faire autrement, on peut se permettre d'innover.
Et mais ça veut dire quand même s'affranchir de sa famille d'origine, de peut-être des attentes des autres, alors des attentes des grands-parents qu'on fasse Noël chez eux, qu'on mange le chapon pour reprendre les exemples de Marine. Mais ça, c'est pas toujours simple de s'affranchir, voilà, des attentes, parce qu'il y a ses propres attentes, les attentes des enfants, de son conjoint et les attentes des grands-parents.
C'est exactement ça. C'est très intéressant, sacré des fois, dilemme. De poser des questions aux gens. C'est-à-dire, est-ce que tout tient vraiment à qu'on fasse cette fête de cette façon? Est-ce qu'on pourrait changer quelque chose pour qu'un tel ou un tel se sent bien ou il ait envie de venir? Des fois, il y a des frères ou des sœurs qui ont décidé de ne plus venir. Et si on donne le sens de ce moment de se retrouver tous ensemble et c'est ça qu'on veut, peut-être en posant des questions, en se parlant, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour que on soit finalement tous plus détendus et qu'il y ait un peu moins de tension. Mettre un peu plus de communication et se parler au lieu de tout simplement hériter ce qu'on nous a donné et se dire ça c'est ma mission, je dois faire et continuer de la même façon.
Du coup, ça finalement de pouvoir anticiper ces tensions, c'est la communication. C'est votre premier conseil, Sandra.
Ouais, c'est communication et des fois aussi devenir observateur de ce qu'on est en train de vivre. Hein, c'est-à-dire pour éviter ces moments de tension, c'est intéressant de dans le moment, dans la situation quand on sent, parce que dans une famille, ce qui est intéressant, c'est qu'on se connaît très très bien. Et en fait, très vite, on peut voir que il y a comme une danse qui se met en place entre, comme dans un couple, mais ça peut être un tandem mère-fille ou père-fils, et que très vite, il faut essayer de désamorcer. C'est-à-dire que bien, on va sentir que la discussion peut devenir une dispute, et de la dispute, ça peut devenir le conflit. Alors quand on devient observateur, c'est on va regarder, on va prendre un peu de hauteur, hein, comme ils disent les Amérindiens, on va devenir une aigle, on va s'envoler, et c'est là qu'on peut dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe autrement, pour pas retomber finalement même dans ces rituels qui est que à la fin tout se passe mal.
En préparant l'épisode, vous m'avez dit une phrase, Sandra, qui m'a beaucoup parlé. Les problèmes de Noël viennent toujours avant Noël, mais explosent à table.
C'est
et
ça.
Donc là, vous nous dites qu'on peut anticiper ça. Marine, est-ce que c'est quelque chose qui vous semblerait possible, finalement, d'amener cette communication dans votre famille pour questionner, finalement, les rituels mis en place ?
Oui, et je souscris totalement au sujet de temporalité. Ça me semble d'autant plus possible que c'est fait en amont. Puisque finalement, y a effectivement cette injonction à la magie qui est super forte. Et donc, Noël n'arrive qu'une fois par an. Et si vous vous mettez à questionner les choses un peu trop près de la date fatidique, systématiquement, il y a « non mais tu vas quand même pas gâcher Noël, c'est Noël quand même ». Oui, bien sûr c'est Noël, mais c'est surtout un rassemblement familial en fait qui opère à certaines règles. Règles qui sont questionnables. Donc je trouve que oui, ramener de la communication et un peu de hauteur de vue. J'aime bien l'idée de se dire, on se pose des questions finalement, pourquoi on fait ça ? Enfin, je veux dire, en tout cas, je suis pas sûre qu'on soit une majorité à faire ça dans une démarche purement religieuse de célébrer une nativité. Enfin, je pense que l'aspect rassemblement familial a largement pris le pas, enfin et le dessus. Donc, mais c'est important de se la poser quand même pas mal en amont parce qu'effectivement, plus on se rapproche, plus il y a ces 48 heures dans une année. Donc, être celui ou celle qui gâche Noël et cette injonction à la magie, c'est lourd aussi parfois à porter.
À partir de quel moment dans l'année on parle de l'organisation de Noël dans votre famille ?
Hyper variable. Ça peut être dès la fin août. Donc là, c'est quand même un peu dur de se projeter. Voilà, la rentrée des classes n'est pas encore arrivée. Et sinon, moi, généralement, on commence à en parler aux vacances de la Toussaint. Voilà, un peu se questionner, mais c'est toujours, c'est d'abord la date. Quelle date on va le faire ? Est-ce que vous pouvez, etc. Puis le lieu, puis voilà. Mais c'est rarement. C'est rarement de quoi vous avez envie cette année, en fait. Et d'un autre côté, voilà, moi, l'année dernière, je suis arrivée, mes parents avaient fait un sapin tout en bois, pour des raisons écologiques, en fait. Mais moi, j'étais un peu... Donc, ils avaient pris des initiatives sans non plus nous les partager. Et en vrai, à la fin, c'était quand même chouette, mais c'était pas partagé. Voilà. Et je trouve intéressant l'idée de se dire, bon, de quoi vous avez envie, en fait, cette année.
Comment on peut partager ?
C'est ça.
Finalement, là, vous nous dites, Sandra, il y a plein de choses qu'on peut faire avant, donc se questionner les différents membres de la famille. Vous évoquiez tout à l'heure le fait de relativiser avec les amis, voilà, décharger un peu l'agressivité ou la pression que peut amener Noël. Vous nous parliez aussi de la complicité, voilà, au sein de la famille nucléaire, trouver un nom de code, voilà, si... le grand-père dit quelque chose vraiment qui est insupportable. Voilà, on va trouver un nom de code, une blague, quelque chose pour finalement traverser et vivre ça, voilà, de manière moins subie, pouvoir rester acteur finalement. Là, je pense aussi aux familles dont les parents, alors la génération des parents, sont séparés. Voilà, il y a souvent cette question, est-ce que on doit se réunir en tant que parents séparés ? Alors là, s'il y a eu aussi des reconstructions familiales, des recompositions familiales, voilà, ça complexifie encore plus le nombre de Noël. Parce que là, c'est vrai qu'on parlait de Noël le jour de Noël, mais il y a des familles où il va y avoir 4, 5, 5 Noëls, on va répéter finalement ce scénario dans chacune des familles. Donc là, ça vient, voilà, ça peut déjà 48 heures, ça peut être long. Alors là, si en plus on doit le faire 5 fois.
C'est ça, ça devient, même des fois pour des enfants ou des adolescents, ça devient pesant. Hein. C'est aller chez les uns, chez les autres, la course au cadeau ou la course à voir des gens, même pour eux, ça peut être compliqué à vivre. Après, je pense qu'il n'y a pas une façon de faire, et c'est ça qui est important à se dire, c'est que des fois, là, on se met beaucoup la pression, c'est pour faire quelque chose de parfait. Et en fait, voilà, on a compris, il faut faire les deuils de ses parents. Les parents parfaits n'existent pas, mais les enfants parfaits n'existent pas non plus. Et moi, je pense, comme disait Guy Ouzlo, hein, thérapeute de famille aussi, très important pour moi, les ressources sont dans les familles. Donc, chaque famille, chaque famille doit réfléchir ensemble, peut réfléchir ensemble à travers toutes ces questions qu'on peut se poser. C'est quoi le mieux pour nous? C'est quoi le mieux pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire sans se mettre la pression que c'est obligatoire, que ça soit dans la date précise, par exemple. On est aussi dans un moment où les enfants, voilà, ça, c'est les vacances scolaires, mais aussi il faut se reposer. Il faut faire des kilomètres pour aller voir les uns et les autres. Donc, lever la pression, c'est important aussi.
Oui, ce qui ressort beaucoup, moi je trouve, en tout cas ce que j'entends des familles que j'accompagne, c'est que c'est pas du tout reposant les fêtes de Noël.
C'est ça. C'est pas reposant et au contraire, comme vous avez dit, vous avez parlé des tensions, de pression, mais vous avez parlé aussi d'agressivité. Et il faut pas oublier aussi que au sein de beaucoup de familles, les moments de Noël peuvent être vraiment des sources de conflits et des conflits sévères. C'est-à-dire que à table, ça peut vriller. Et comme on sait tous, les problèmes des familles ou la violence en famille, ça se passe aussi à porte fermée. C'est-à-dire que depuis notre enfance, pour les uns plus que pour les autres, on va faire avec, on va supporter et on s'est dit, bah, c'est comme ça et on avance. Un tel se supporte pas avec un tel ou on sait que ça va exploser. Et c'est des moments aussi où il y a des sujets tabous, des secrets ou des non-dits qui tournent autour de la table. Hein. Donc une famille qui va essayer de pas parler de quelque chose parce que ça peut créer conflit ou quelqu'un peut devenir tout simplement agressif. Donc aujourd'hui, libération de la parole, MeToo, on parle beaucoup plus ouvertement même de la violence intrafamiliale qui peut aller jusqu'aux des violences sexuelles et l'inceste. Et évidemment, c'est des sujets qu'il y a des familles qu'il faut se dire aussi que des fois, il vaut mieux ne pas se réunir. Ou il faut savoir aussi que ce sont des choses qui peuvent exploser à table. Je pense à un film Festen, hein, c'était pas Noël, mais c'est l'anniversaire du père qui fête ses 60 ans, voilà, et c'est le fils qui est un adulte qui va annoncer devant toute la famille, voilà, qu'il avait été violé, incesté par son père, lui et sa sœur qui vient de se suicider. Donc on part des fêtes des familles et des fois il y a des sujets très lourds et des sujets qu'il faut vraiment prendre au sérieux et se dire ben oui, des fois on se voit pas en famille, mais il y a aussi une raison. C'est-à-dire que, avant tout, il faut se protéger, protéger les enfants et prendre le recul nécessaire de se demander qu'est-ce qu'on fait là et est-ce que c'est bien d'être là.
Et donc là, on revient à cette question, chez qui on fête Noël ou avec quelle famille? Et voilà, peut-être parfois, même si cette décision, j'imagine, n'est pas toujours simple à prendre, mais de faire Noël qu'en famille nucléaire, ça peut aussi avoir du bon. Et pouvoir se protéger de certaines choses par rapport à la famille plus élargie quand voilà, on est dans des situations comme ça très, très compliquées.
C'est ça.
D'ailleurs, le Covid a permis pour beaucoup de familles de faire cette expérimentation, de faire Noël en plus petit comité. Et pour beaucoup de familles, ça a été une belle expérimentation.
D'ailleurs, c'est ça qui va changer beaucoup de ces fameux rituels dans lesquels on est ancré. C'est-à-dire que par la force des choses, on a été obligé de innover, de créer quelque chose d'autre. C'est-à-dire que voilà, c'est cette vécue collective a fait qu'on a dû faire autre chose. Donc, des fois, les gens, ils l'ont fait sur même à table sur Facebook ou tout simplement Facebook. Ils l'ont fait.
Skype.
Ou... Skype ou FaceTime, voilà, en visio. Hein. Ou sinon, tout simplement, ils se sont réduits en petits comités. Ils ont répété, mais en faisant chez l'un ou chez l'autre, pas tous ensemble. Et le retour de beaucoup des familles est qu'ils ont pu le partager dans plus de sérénité et peut-être plus d'amour. Oui,
Marine nous parlait du nombre. Voilà, c'est vrai que les Noëls où il y a beaucoup de monde, c'est vrai que ça démultiplie le stress, la pression, l'organisation, finalement de pouvoir faire ça en plus petit comité, il y a un côté peut-être un peu plus simple, il y a aussi moins d'attentes, moins d'enjeux, voilà. Moins de relations, donc moins de tout ça à gérer.
Et après, tout est possible. Il y a des couples séparés qui arrivent à fêter Noël ensemble. D'autres qui décident de faire une année sur deux. Je pense que tout est à chaque famille de réfléchir qu'est-ce qui est le mieux pour eux.
Oui, on peut choisir de pas faire dans toutes les familles, mais en effet de tourner ou de faire d'autres fêtes dans l'année pour dispatcher, voilà, que tout soit pas concentré à cette période-là.
Exactement, parce que finalement, comme disait Marine, après, c'est quoi? C'est 24 heures, 48 heures. Donc, c'est aussi frustrant. Toute cette énergie, tout ce temps passé pour qu'on ait cette impression des fois de « j'ai pas profité, j'ai pas pu profiter ».
Quels seraient vos autres conseils, Sandra, pour... voilà, alors, vous nous avez parlé de l'avant, voilà, maintenant on est pendant. Pendant, qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre?
Déjà, le mot survivre, c'est dur. Hein. Ça nous met dans une position. Je pense que le travail qu'on fait en amont, c'est ça qui va nous accompagner à passer un bon moment. C'est-à-dire, c'est vraiment que ça soit un choix. J'ai envie d'y aller. Après, parler avec son partenaire, sa femme, son conjoint, ses enfants. Donc le sous-système, hein, quand on parle de système, c'est la famille toute entière. Après c'est la famille d'origine, il y a la famille nucléaire, et en même temps on peut avoir plusieurs familles dans ce système parce qu'on a les deux familles d'origine, etc. Donc déjà parler en amont, c'est décider qu'on veut y aller. Et c'est décider qu'on veut y aller, c'est y arriver. Et sur le moment, c'est dire, ça a un sens pour moi d'être là.
Donc sortir de la contrainte et y remettre du sens.
Voilà, ça a un sens pour moi d'être là. Et après, y participer de façon à se dire, moi, je peux aussi avoir un impact dans ce qui se passe. Je vais pas faire que subir, mais je peux participer. Et moi, je peux changer les choses qui se passent. C'est-à-dire que dans ce cycle de vie, si on l'a vécu enfant, on a compris des choses qu'après, quand on est adolescent ou parent, on peut se dire, moi, je vais avoir aussi un impact. Donc aujourd'hui, je peux changer les choses, donner la place à quelqu'un d'autre, amener le gâteau pour qu'on arrête de râler que c'est toujours les mêmes qui le font ou autre chose. C'est-à-dire...
Oui, se répartir les tâches dans l'organisation et on peut faire participer aussi les enfants. Là, je pense au fait, voilà, pendant la difficulté que ça peut être pour certains parents de canaliser aussi l'excitation des enfants qui souvent sont finalement se retrouvent un peu à s'autogérer seuls pendant que les adultes sont affairés à faire la cuisine, le repas. Comment vous, Marine, vous gérez ça? Comment vous gérez les enfants et leur excitation?
C'est un super point et je trouve qu'effectivement pour une fête qui est quand même réputée être très tournée vers les enfants, il y a pas mal de flottement autour des 10 enfants. Deux choses déjà, nous on a créé une organisation qui respecte en fait l'âge des enfants, enfin en tout cas on essaye. Ça nous paraît absurde d'aller à la messe de minuit avec des enfants de 4 ans en fait, enfin... Et donc, bah ça, c'est aussi un peu innover, contourner un peu le rituel, et effectivement leur donner une part, dans la construction de ce moment. Et je trouve que c'est aussi important, que ça soit Noël ou pas Noël, en fait, qu'ils comprennent que, en fait, faire partie d'une famille, c'est aussi créer des choses ensemble, ces choses pouvant être des sablés, voilà, mais que Que dans le groupe, c'est bien quand il n'y a pas de passagers clandestins, en fait, et que les liens, ils se tissent aussi parce qu'on a décidé d'alchimiser ce moment-là, en fait. Et l'alchimie, elle passe souvent par l'action. Donc ça peut être décorer la table, ça peut être aider au pliage des serviettes, des choses extrêmement, extrêmement simples, mais il ne s'agit pas uniquement de consommer. En fait, ce moment-là, il s'agit aussi de créer ensemble.
Et souvent, les enfants sont très demandeurs, sont très heureux de ça.
C'est aussi donner du sens, aussi leur donner une place et que eux, ils comprennent que ils vont y aller, ils vont participer à ce qui est en train de se passer. Après, c'est vrai quand on parle des enfants, les enfants, ils sentent tout ce qui se passe. Donc, comme on disait tout à l'heure, ils vont sentir quand quelqu'un est triste et qu'il essaye de cacher quelque chose. Ils vont sentir la tension entre certaines personnes. Donc, comment ils vont l'exprimer? Ils vont s'exciter. Ils vont faire du bruit, peut-être pour eux être le centre d'attention et casser ce qui est en train de se jouer entre d'autres. Donc, et des fois, ils arrivent très bien à le faire. Ils vont voir que Pépé commence à s'engueuler avec papa et c'est eux qui vont casser un verre pour que l'attention est par ailleurs. Donc, c'est important aussi de mettre des mots et les accompagner à parler des émotions. Je pense qu'on disait que quoi faire, c'est voilà, hein, comme on dit, métacommuniquer, parler de ce qu'on est en train de vivre à ces moments-là. Ça, c'est aussi d'essayer de recréer des souvenirs, mais liés à l'émotion. Peut-être pas que au matériel, peut-être pas que à ce qu'on est en train de manger, mais ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est très important aussi.
Et l'émotion, elle peut être pas toujours très agréable, et c'est OK.
Exactement. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu es en train de voilà pourquoi ça arrive ou qu'est-ce qui s'est passé et que l'enfant puisse dire voilà je suis normalement un enfant va très vite dire je suis fatigué parce que ce qu'on lui a appris à dire hein, de toute façon un enfant qui fait n'importe quoi c'est ah non mais il est fatigué et en fait si on va un peu plus loin il peut aussi dire ben voilà que il est triste aussi parce qu'il y a d'autres enfants dans le monde qui n'ont rien à Noël ça c'est quelque chose qui est très présent, je pense, dans l'esprit de tous les enfants, même peut-être chez nous, hein, chez vous. Et c'est quelque chose que les adultes, ils vont des fois le cacher ou pas les permettre de dire parce que il faut profiter de ce moment. Mais profite de ce moment. Hein. Ça veut dire on s'en fout des autres. Hein. Mais en fait, pendant toute l'année, on est en train de leur dire que comment les autres souffrent aussi. Donc, parler de tout ça, c'est venir à mettre de l'émotion pour que ces enfants puissent aussi garder des bons souvenirs pour peut-être plus tard avoir envie de continuer ces rituels autrement aussi.
Dans ce que vous disiez, Marine, j'entends cette question aussi de respecter les rythmes des enfants en fonction de leur âge. Voilà, qu'un enfant de 3 ans, rester 3 heures à table aussi, c'est très compliqué. Voilà, de pouvoir aménager les choses. Comme vous dites, Sandra, ils viennent évidemment par leur excitation dire quelque chose de ce stress, de ces tensions. Mais si, en tout cas, on respecte leur rythme, un peu leurs besoins, même si c'est une journée un peu exceptionnelle, ça va aider aussi à ce que ça se passe bien.
C'est ça. Et des fois, après, c'est voilà, des enfants qui peuvent organiser quelque chose, un spectacle. Après, c'est plutôt aux adultes de gérer, parce qu'on peut avoir l'adulte, hein, un des fringins que lui, voilà, ça le saoule, un autre qui adore. Voilà, après, c'est les adultes qui vont gérer ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, c'est tourné, comme Marine disait. C'est vrai que c'est des fêtes qu'au départ, elles sont un peu faites pour les enfants. Mais pour quel enfant ? Hein, l'enfant devenu adulte, hein, donc peut-être pour les grands-parents, pour réparer quelque chose qu'ils n'ont pas vécu, ou est-ce que c'est vraiment pour les enfants qui sont là qu'on essaye de mettre des fois à l'écart pour pas qu'ils perturbent ces réunions.
Tout à l'heure, Sandra, vous nous parliez de l'alcool qui désinhibe. Donc, quand on avait voilà, préparé l'épisode, vous aviez ce conseil voilà, que peut-être de ne pas se resservir à l'apéro. Mais l'alcool, c'est aussi parfois un verre de plus pour tenir, pour survivre, pour faire passer la pilule. Donc là aussi, ça peut être un peu compliqué de trouver le bon équilibre.
Voilà, exactement. Tout est après en question d'équilibre, hein, parce que ça me fait penser, voilà, à un jeune adulte que j'accompagne, que elle m'est parlé de ces fêtes des familles et comment on faisait cette addition de dire ma mère parlait de mon père, des parents séparés, plus alcool égale cocktail, mais cocktail Molotov. Hein. Là, c'est le cocktail. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, mais de toute façon, dans une famille, on le sait. On sait très bien, c'est lui qui est en train de boire trop rapidement, ou c'est lui qui va boire plutôt pour s'échapper. Et à nouveau, y participer, c'est comprendre l'impact que tout ça, l'impact que les uns ont sur les autres, et ensemble, essayer de voilà, garder un cap pour que le bateau ne part pas à la dérive. C'est un peu ça.
Sandra, quel serait votre dernier conseil pour traverser ces fêtes le mieux possible?
Pour survivre, hein, pour venir à la question, pour survivre aux fêtes des familles, évidemment, c'est l'amour et l'humour. Hein, parce que l'humour, c'est ça qui va pouvoir très rapidement désamorcer quelque chose qui est en train de se produire et que tout le monde sait que derrière, il peut y avoir un conflit. Donc, prendre du recul et avec beaucoup d'humour, savoir rire et pouvoir rire de soi et de ce qui est en train de se jouer entre nous.
Ça remet un peu de joie.
C'est ça.
Dans tout ça. Et puis, hein, peut-être, est-ce que vous auriez un conseil sur l'après? On parlait de la fatigue tout à l'heure. En tout cas, moi, ça m'est arrivé d'entendre, alors plutôt des mères de famille, me dire, bon, bah après, c'est tellement fatigant que je m'octroie des vraies vacances une fois la rentrée, en tout cas, s'accorder peut-être un temps de douceur, du temps pour soi, voilà. Alors, soit pendant, soit après, en tout cas, de ne pas s'oublier.
Ouais, pas s'oublier. Et aussi, peut-être, ce débriefing émotionnel, hein, avec les plus proches de notre vie au quotidien, hein, pour dire comment ça s'est passé. Et revenir un peu ça pour garder que les bons souvenirs et désamorcer peut-être des choses qui se sont passées et que nous, parents, peut-être, on n'a pas saisi chez nos enfants ou adolescents et que c'est ça qu'ils vont garder comme souvenir. Donc, débriefer un peu ensemble et revenir sur les questions. Qu'est-ce que tu as pensé? Comment c'était? Qu'est-ce que tu as senti? Voilà.
Vous nous avez vraiment bien dit, Sandra, et Marine aussi, hein, l'importance de l'anticipation, du dialogue. Et là, vous venez de nous le dire, de l'humour pour traverser le plus sereinement possible ces moments de fête. Voilà, moi, je voulais juste donner en conclusion cette citation de Robert Neuberger qui dit « On peut se réunir pour Noël parce qu'on s'aime, mais on peut aussi se réunir pour donner du sens à la famille. » Et vous nous l'avez bien dit, Marine, voilà, que avant tout, Noël, c'est un rassemblement familial. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Marine, alors des lectures, des vidéos ou autres, est-ce que vous auriez envie de nous recommander quelque chose pour mieux vivre, survivre aux fêtes en famille?
Oui, alors je suis pas sûre que ça soit une recommandation très conventionnelle, mais malgré tout, je vous la donne. Moi, je trouve que le film « Le Père Noël est une ordure », qui est d'ailleurs un film culte dans ma famille, qu'on a beaucoup regardé à Noël ou à d'autres moments, et finalement assez intéressant parce qu'il offre une version très grinçante aux antipodes des comédies un peu à l'américaine sur ce que devrait être un Noël parfait, très grinçante et en même temps où la rencontre avec l'autre, elle est au centre en fait dans ce film, avec l'autre dans tout ce qu'il a de bizarre, dans tout ce qu'il a d'énervant, dans tout ce qu'il a d'imprévu. Et je trouve que finalement c'est assez chouette pour essayer de réfléchir autour de Noël et d'un Noël très peu conventionnel finalement.
Merci Marine. Sandra, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander?
Alors un livre de Moni El Kaïm, hein, un grand thérapeute de famille. Moni El Kaïm disait toujours pas parce que l'un a raison que l'autre a tort. Et un livre qui porte le titre Comment survivre à sa propre famille. Voilà, donc je pense que voilà, on est un peu dans la thématique pour relativiser, mais aussi pour comprendre que chacun a une place. Et l'idée, c'est de se dire comment je peux changer le prisme pour pouvoir changer la place. Il y a aussi un autre livre, Le Passeur. C'est donc bientôt les fêtes et c'est pour moi un livre intéressant pour grands et petits. Donc, des fois, c'est intéressant, même avant Noël, de partager un ou deux livres avec les adolescents pour pouvoir faire discussion à table. Hein, pourquoi pas? Il faut trouver des sujets autres que ceux qui fâchent. Et je trouve que c'est un livre intéressant parce qu'il va parler d'une façon, d'une société futuriste. Il va parler des émotions, en fait. Et puis, voilà, je vous en dis pas plus. Et autour d'un film... J'aime beaucoup L'étrange Noël de Mister Jacques de Tim Burton à partager grand et petit, hein, qui va parler un peu de un autre Noël, mais aussi La vie est belle, qui est un film de 1946 de Frank Capra, où le personnage principal veut se suicider avant les fêtes de Noël. Bon, après, c'est une histoire qui finit bien, genre peut-être trop bien, mais c'est de 46, mais c'est un film qui a inspiré beaucoup d'autres films et qui fait un peu voilà, qui nous parle un peu de l'émotion encore à Noël. Est-ce qu'on a envie d'y aller ou pas?
Ça peut pas être simple, mais on peut survivre. En tout cas. Un très grand merci Marine d'être venue partager avec nous votre vécu des fêtes de Noël et on vous souhaite de très bonnes fêtes.
Merci beaucoup.
Vous viendrez peut-être nous raconter comment ça s'est passé.
Le post-Noël, oui.
Merci beaucoup Sandra Wyss. Je rappelle que vous êtes thérapeute familiale à Paris. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.